Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Joyeux Noël à tous, vous êtes sur RMC pour le best-of des grandes gueules du sport en ce dimanche 25 décembre. Sachez que nous serons là le week-end prochain en direct, le 31 décembre, le 1er janvier, de 9h à midi. Notez bien ce rendez-vous. Pour démarrer cette nouvelle heure de best-of, retour sur une interview qui a fait grand bruit juste avant la Coupe du Monde, quand Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec Manchester United. Vient-il de se faire harakiri? C'était notre débat. Et c'était le 19 novembre avec une équipe 3 étoiles. David Douillet, Marion Bartoli, Olivier Giraud et Renaud Longuèvre. Citation d'André Birabeau qui a dit un jour « Le suicide n'est qu'une sortie de secours ».
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Cristiano Ronaldo livre une critique acerbe de Manchester United. Il pointe son entraîneur. Pas seulement le coach, mais aussi deux ou trois personnes dans l'exécutif du club essayent de me faire partir.
C'était un sportif, je crois, sans comparaison. Parce que pouvoir se fixer des objectifs à plus de 100 ans, c'est fabuleux.
Là où Cristiano n'est pas honnête, c'est qu'il aurait dû dire, lui aussi dans cette interview, que lui aussi a voulu partir.
La voix est intacte, tout juste teintée d'émotion. Oui.
Et Cristiano et le système Ten Hag ne sont pas compatibles.
Depuis un an, ça devient dur.
Ce n'est pas possible, ça ne marche pas ensemble. Et pas, en tout cas pas le Cristiano d'aujourd'hui à 37 ans.
Mais je m'entretiens quand même, parce qu'il ne faut pas rester assis tout le temps.
Je vais pas féliciter Pierre Habiche pour cette production. Il a changé Cristiano, il a un peu vieilli, c'est vrai. 17 août 2022, Ronaldo avait prévenu, qu'il sortirait du silence pour dire la vérité, sa vérité, alors qu'il accusait à ce moment-là certains médias de raconter des mensonges sur sa situation à Manchester. Trois mois plus tard, donc, voici venu le temps du grand déballage. Son entraîneur, son club, ses propriétaires, ses coéquipiers, les anciennes légendes de Manchester, tout le monde prend son tir, et plusieurs fois parfois. Cristiano Ronaldo a donc vidé son sac cette semaine dans cette interview explosive avec son ami et journaliste Piers Morgan à quelques jours du début du Mondial. La musique qui fout les jetons est cette question. Ronaldo vient-il de se faire harakiri? Oui ou non? David Douillet.
C'est possible, ouais.
Marion Bartoli.
Non.
Olivier Giraud.
Non.
Renaud Longuèvre.
Oui.
Avant de débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sport, Julien Richard. Salut Julien.
Salut tout le monde.
Salut.
Que faut-il retenir de cette interview au lance-flamme?
Alors beaucoup, beaucoup de choses. D'abord un mot de contexte, tu l'as dit, mais Piers Morgan, c'est vraiment un grand ami du portugais. Donc l'interview n'est vraiment pas, l'intérêt n'est vraiment pas dans la contradiction. En gros, il lui tient le lance-flamme, il remet un peu d'essence quand c'est vide, et puis de temps en temps, il passe un petit coup de polish. Ça c'est pour le contexte. Donc Cristiano Ronaldo, déjà, se sent trahi par Manchester.
Peut-être que je ne devrais pas dire ça, je ne sais pas, mais je m'en fiche et les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai senti que des personnes ne voulaient pas de moi ici, et pas seulement cette année, mais déjà l'an dernier.
But last year too.
Trahi notamment par Erik ten Hag, donc l'entraîneur de Manchester United, qui ne l'a pas fait jouer contre Manchester City, où United avait sombré, souvenez-vous. À ce moment-là, le coach néerlandais explique à CR7 bien que c'est par respect pour sa carrière. Ce même Ten Hag, qui quelques jours plus tard veut le faire rentrer sur les trois dernières minutes du match contre Tottenham. Ronaldo refuse de rentrer, divorce consommé, explication de CR7.
Il ne m'a pas respecté comme je le méritais. S'ils avaient vraiment eu besoin de moi contre Tottenham, j'aurais aidé. Mais là, non, je l'ai pris comme une provocation. C'est pour ça que j'ai dit que je n'avais pas de respect pour lui, car il n'en a pas pour moi. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette situation.
Donc Ten Hag, c'est fait. Les propriétaires du club, ensuite la famille Glazer, ils s'en foutent du club. Il n'y a que l'argent du marketing du club qui les intéresse. D'ailleurs, je ne les ai jamais rencontrés, assure-t-il. De retour à Manchester depuis 2021, hein. C'est très récent. Il estime que le club, dans sa structure, donc en termes de technologie, du centre d'entraînement, d'un tas de choses, n'a pas progressé depuis son départ en 2009. Cristiano Ronaldo, qui n'a pas apprécié également les critiques des anciens de Manchester United, ses anciens coéquipiers comme Wayne Rooney.
Je ne sais pas pourquoi il me critique aussi fort.
Is it jealousy as well, perhaps, that you're still playing and...
C'est de la jalousie parce que vous jouez encore et pas lui.
Still in the
probably, because if
probablement parce qu'il a terminé sa carrière à 30 ans et moi je joue encore à haut niveau. Je ne vais pas dire que je suis aussi plus beau que lui parce que c'est vrai, mais... C'est dur d'entendre les critiques aussi négatives de la part de gens avec qui j'ai joué, comme Gary Neville aussi.
For example, Gary Neville as well.
Alors, on a aussi eu droit à un point, c'était mieux avant, moins bon que Christophe Cessieux,
d'ailleurs,
je tiens à le préciser. Sur l'état d'esprit des jeunes joueurs, ils n'ont plus faim, tout est plus facile pour eux. Le seul qui s'en sort indemne, finalement, en même temps, il n'avait rien demandé, c'est Messi, Lionel Messi, son grand rival, incroyable joueur, un magicien top, j'ai une super relation avec lui, et d'ailleurs, il ne ferme pas la porte pour éventuellement jouer un jour avec lui, en face des péchés peut-être quand même. Il n'a pas fait que dézinguer, il s'est aussi fait passer la brosse à reluire avec l'aide donc de Piers Morgan qui lui demande, ça c'est le petit bonbon pour la fin, mais vous avez quand même près d'un demi-milliard de followers sur Instagram, donc 500 millions, plus que la famille Kardashian réunie, mais comment ça se fait que vous êtes si populaire ?
Je suis si fier de ça et ça signifie beaucoup pour moi. Les gens m'aiment et je suis charismatique, je pense. Pourquoi je suis le numéro un ? Souvent, je me pose la question, pourquoi moi et pas un autre ? Pour être honnête, ce n'est pas juste parce que je suis un bon joueur de football, ça tout le monde le sait, mais vous devez être charismatique. Les gens doivent sentir une connexion avec vous. Je pense qu'être beau, ça aide aussi. Je suis charismatique, je suis un fruit appétissant que les gens ont envie de croquer, genre une fraise, mais je ne sais pas.
Voilà, une petite fraise, Cristiano Ronaldo. Sachez hier que le club de Manchester United a réagi en assurant dans un communiqué avoir pris, je cite, les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo dans les médias. Nous ne ferons aucun commentaire tant que le processus n'aura pas atteint sa conclusion. Selon plusieurs médias britanniques,
rien dire, mais c'est pas grave.
Le club, c'est les médias britanniques qui ont décrypté derrière, le club va rompre le contrat du Portugais et même le poursuivre certainement en justice puisque des avocats seraient déjà missionnés par le club mancunien.
Merci beaucoup Julien Richard pour toutes ces précisions et pour tous ces petits bonbons donc offerts par Cristiano Ronaldo. Vient-il de se faire arracher Kiri, c'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai un oui de Renaud Longuèvre. Pourquoi oui ?
Oui, parce que ce garçon est en roue libre. Il est complètement en roue libre. Immense joueur, mais il a besoin d'un bon psy, quoi. Moi, je pense. Le problème, il est OK, on a tous compris, il veut plus jouer avec Manchester United et Manchester United lui rend bien, il y a pas de souci là-dessus. Par contre, aller dans les médias comme ça, sortir la sulfateuse, quand t'es comme ça sur une fin de carrière, alors il a envie de jouer avec Messi au PSG. Moi, je suis dirigeant d'un grand club parce que il a pas envie d'aller jouer à Laval en Ligue 2. Je suis dirigeant d'un grand club.
Ne dis pas ça à Marc.
Exemples parce que Mayennais est dans cette émission et il ne faut surtout pas s'attaquer à Laval, c'est dans notre contrat. Vas-y, je te laisse.
Mon papa est né là-bas. Alors là, j'adore Laval, mais.
Bien rattrapé.
Mais sincèrement, je suis dirigeant. Je suis dirigeant d'un grand club. Le message que tu envoies en faisant ça, c'est dire attends, au moindre truc de travers, le gars, il va dans les médias.
C'est pas le moindre truc. Il y en a avec une certaine liste.
Non, mais il allume tout le monde. Je veux dire, il y a des gens qui ont été en difficulté sur des fins de carrière. Je veux dire, Olivier Giroud, il a eu sûrement des moments difficiles à Chelsea. Mais pour rebondir au Milan AC, faut la jouer plutôt sport, quoi. Ok.
Tu veux pas comparer Olivier Giroud à Cristiano Ronaldo, c'est quand même pas le même niveau.
Marion, le truc qui est en toile de fond, à mon avis, c'est qu'il est pas lucide sur son niveau d'aujourd'hui. Voilà.
Manque de lucidité. Ok. Marion Bartoli, pour toi, c'est non, il sait pas faire à Kerry.
Enfin, manque de lucidité, il a quand même fini top 30 du Ballon d'Or l'année dernière, mais si t'es pas dans le top 30, hein. Donc pas lucide sur son niveau de jeu. Pour moi, effectivement, pendant un an et demi, United lui a marché dessus, il a manqué de respect, et je pense que ce qui est venu vraiment mettre le feu aux poudres, c'est en fait que sa fille Bella avait des problèmes de santé, qu'elle a été hospitalisée, qu'en plus on sait très bien qu'il a perdu un enfant à la naissance. Donc déjà, c'est extrêmement compliqué de récupérer de ça. On sait qu'il avait joué un match à Liverpool et tout le stade de Liverpool avait applaudi Cristiano Ronaldo alors que ce sont les ennemis jurés avec United parce qu'il y avait cette douleur en tant que parent. Derrière, sa fille Bella tombe malade pendant la préparation, raison pour laquelle il n'a pas effectivement hésité entre privilégier la santé de sa fille par rapport à aller taper un ballon en pré-saison, surtout qu'il a vraiment plus rien à prouver en tant que joueur de foot. Et ce qui qui l'a vraiment choqué et marqué, c'est que le club de United ne l'a pas cru et que donc ils ont remis en cause le fait qu'ils reviennent pas, enfin qu'ils viennent pas faire la pré-saison uniquement parce qu'ils voulaient partir. Alors qu'à ce moment-là, Cristiano Ronaldo dit non, c'est uniquement parce que j'ai privilégié ma famille et effectivement les douleurs qu'on a pu ressentir avec ma femme déjà avec la perte d'un enfant et là un de nos enfants qui était à nouveau malade. Donc déjà il a extrêmement mal pris cela. Après Ten Hag fait rentrer un joueur comme Ronaldo et demander à un joueur comme Ronaldo de rentrer 3 minutes, si ça c'est pas du foutage de gueule, je sais même pas ce que c'est. Donc à la fois un entraîneur qui n'est pas ni Guardiola ni avec un palmarès monstrueux, qui manque de respect à ce point-là un joueur comme Cristiano Ronaldo, je trouve ça totalement inadmissible. Et que donc il sorte la sulfateuse parce qu'il en a plus rien à faire et qu'effectivement, là je suis totalement d'accord avec toi Renaud, ils sont enroulés, mais ils sont enroulés par rapport à un contexte qui a été un multifacteur et qui a été vraiment contre lui dans une situation où il n'avait pas besoin de ça. Donc moi je suis désolée effectivement qu'il allume un club qui en plus est en perte totale de titres et de prestige. Il a totalement raison. Après ça va dépendre beaucoup de ce qu'il va faire en Coupe du Monde pour avoir un avenir sur un club qui joue en Ligue des Champions pour les 6 prochains mois. Moi, je suis dirigeant d'un grand club, je tente le coup. Il faut pas oublier que Cristiano Ronaldo, c'est Monsieur Champions League. C'est lui qui a les plus grandes stats en tant que marqueur en phase de poule ou en phase finale en Champions League. Il a un palmarès qui est absolument colossal. Je vois pas pourquoi il pourrait pas rebondir dans un autre club.
Ça refroidit pas les autres clubs pour toi, mais c'était plutôt la nuance apportée par Renaud. Toi, ça t'inquiète pour les autres clubs qui voudraient peut-être le prendre. Dans le déni ou pas sur ce débat, mon cher David Douillet, on a parlé de Raphaël Nadal. Sur Cristiano Ronaldo, ton point de vue?
Non, mais je me pose une seule et unique question, ça sert à quoi? Je crois qu'il a 37 ans, est-ce qu'il a encore envie de jouer? Parce que là, il fait tout comme si il voulait plus être capté par un grand club. Voilà, quand on fait ce genre de déclaration, quand on se lâche de cette manière-là, tant sur les dirigeants d'un club, les propriétaires, ses anciens partenaires... Mais on donne pas confiance à quelqu'un qui voudra le capter, quoi. On se dit, oh là là, Ronaldo, ouf, oh le merdier, oh non, j'en ai pas envie, oh non, il va l'ouvrir, oh non, il va
le
faire
bourbier.
Ci, oh
non, le... Non, mais c'est pas comme si on découvrait que Ronaldo avait de l'ego. C'est pas comme si c'était la première fois qu'on découvrait que Ronaldo avait de l'ego et qu'il avait une grande gueule.
De l'ego et que t'as les stats d'Mbappé.
Tout le monde a de l'ego.
On te prend.
Tous les champions ont de l'ego. C'est comme ça. Et faut le gérer. Tout, ça, c'est une constante. Mais là, c'est de l'ego et le porte-voix, le mec, 500 000 de followers. Bonjour l'ambiance. Moi, je suis dans un club. Je me dis, ouf, non, merci, au revoir. Écoutez, allez, vous occuper de vos enfants. Allez faire autre chose. Soyez un immense con. Soyez un ambassadeur pour les gamins dans le monde, etc. Allez faire autre chose, parce que là c'est fini. Le gars il s'est plombé, il s'est pas tiré une balle dans le pied, il s'est tiré une balle, deux balles dans chaque pied, c'est terminé pour moi. Et là je pense que
en réalité
il a pas le courage de s'avouer que c'est la fin. Donc il provoque les choses pour que ça arrive. Voilà ce que je pense.
Ok, c'est très intéressant et ça rejoint le manque de lucidité de Renaud. Olivier Giraud.
Bah, écoute, pour te parler de ça, je vais juste prendre quand même un des meilleurs coachs de handball qui s'appelle Daniel Constantini. Après un match complètement raté de l'équipe de France, il nous a pris dans le vestiaire. Il a dit, il y a quelque chose que j'ai peut-être oublié de vous dire. Il y a trois types de joueurs. Il y a le joueur de championnat, vous l'êtes tous, hein. Le joueur international, vous l'êtes tous parce que sinon je me serais trompé. Mais il y a une autre catégorie qui s'appelle les joueurs de classe internationale. Et ça, vous n'en faites pas encore partie. Voilà. Et à un moment, il faut se dire que lui, il fait partie de ces joueurs qui sont des joueurs de classe internationale. C'est-à-dire que le moment où un joueur comme ça parle et sa carrière parle pour lui, il y a deux manières. Soit tu es un entraîneur, soit tu es un coach. Et ce type de joueur, tu dois les coacher. Et tu dois te comporter avec eux d'une manière différente. C'est-à-dire que le moment où tu insultes un joueur de classe internationale en le faisant rentrer comme si c'était un joueur de 17 ans, eh ben tu t'attends à ça. Et vous êtes en train de me dire une chose, c'est que ce coach, il doit l'accepter ce coach. Il n'a encore jamais rien gagné. Et à un moment, quand tu te retrouves et que tu acceptes d'avoir dans ton équipe, de gérer des égos, des meilleurs joueurs du monde, qu'il ait 37 ans ou qu'il en ait 30, eh ben, tu t'es trompé. Et que si il envoie la sulfateuse, elle est complètement contrôlée. Ça veut dire que, à un moment, il y a des dirigeants, pareil, qui vont venir dire à Cristiano Ronaldo, même s'il n'est pas bon là actuellement, que eux, quelle raison ils ont de dire à Cristiano Ronaldo qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas bien. Vous me parlez des joueurs anglais? mais ils sont tous jaloux de lui. Ce sont des anglo-saxons qui le critiquent. Ceux qui étaient au club, et il est plus star dans, en Angleterre dans leur club qu'eux. C'est normal.
Mais je sais pas, on nous a toujours dit que le club, qu'un joueur ne devait pas être au-dessus
mais
du club.
Mais bien sûr, bah là, pour mais le bien coup, sûr, mais bien hein. sûr, mais si le club en interne, c'est-à-dire que nous, on a la face extérieure de ce qui ressort, mais à l'intérieur, si, il le sait déjà, Cristiano Ronaldo, qu'ils veulent le plomber, que c'est un boulet pour eux. Évidemment, ça c'est une vérité, mais c'est ce qui s'est dit Cristiano Ronaldo, je suis peut-être un boulet, mais je vais vous rendre la monnaie de votre pièce, et là exactement. Il les a massacrés.
T'as complètement raison, je suis complètement d'accord avec toi.
Il a quand même dit quelque chose, Cristiano Ronaldo, qui va peut-être rejoindre ce qu'a dit David, c'est... Il a ouvert la porte de la retraite. Alors oui, il a peut-être dit aussi en plaisantant, mais d'ici je suis champion du monde, moi j'arrête.
Il n'a plus rien à prouver, il faut que vous compreniez ça. Vous êtes en train de dire que ouais, là, il va pas trouver de club. Qu'est-ce qu'il s'en fiche? C'est-à-dire que le seul truc qui va l'intéresser pour finir sa carrière, c'est pas d'être sur le banc avec les joueurs de 17 ans. C'est-à-dire que si il faut partir tout de suite parce que le club ne le respecte pas et il a sa part de à l'intérieur de ce qui se passe actuellement. Mais très vite, quand t'as 37 ans, faut se barrer vite et il ouvre la porte tout de suite, il détruit United et dit bon, si quelqu'un me veut pour finir ma carrière, je suis là. Et après, il y a un truc.
Il y a un argument, moi, que je trouve bien dans ce que tu dis, c'est peut-être il y a eu gestion maladroite et il y a mieux à faire en termes de gestion humaine. Ok, ça je l'entends. Par contre, là où je te suis pas du tout, c'est quand tu dis il a sorti la sulfateuse et il a bien eu raison. Dans la vraie vie en dehors du sport, si t'as un employé qui se fait mal parler au McDonald's, il revient le lendemain, il pose une bombe au McDonald's, il a raison d'aller plastiquer le McDonald's.
Je n'ai pas dit qu'il a eu raison.
Ah non, Olivier, tu peux pas dire ça.
Je dis c'est totalement contrôlé. C'est totalement contrôlé. Mais bien sûr, c'est totalement contrôlé. C'est un mec qui a contrôlé son image.
Contrôlé, mais c'est pas bien.
Mais après, on peut discuter, c'est bien, c'est pas bien. La question, c'était, est-ce qu'il s'est fait harakiri? Non, il ne s'est pas fait harakiri. Il a fait harakiri à Manchester United.
Ok. Ouais.
Il s'est fait harakiri pour lui. Il est dans le déni, Ronaldo.
Qu'est-ce qu'il gagne?
Il a tellement d'ego qu'il veut pas s'avouer à lui-même que c'est fini.
Mais il est perdu.
Il est en train de créer un contexte pour créer la fin, en fait.
Exactement. T'as tout compris. Je suis d'accord avec toi, David. Mais c'est voulu. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait la scission tout de suite. Il ne pourra plus supporter le coach. Il peut plus le voir. C'est-à-dire que pour Cristiano Ronaldo, quand il regarde ce coach, il a croisé tous les meilleurs coachs du monde. Ancelotti. Ouais. Et tous les meilleurs coachs du monde. Et Ancelotti, sa grande qualité, c'est de savoir gérer les égos.
C'est clair.
Oui, enfin, c'est plus facile de gérer un égo de Cristiano Ronaldo quand il est au top de sa forme que de gérer l'égo de Cristiano Ronaldo quand ça va pas bien.
Ça peut être une patate chaude.
Écoute, je vais te dire une chose. Quand Zidane est arrivé, il a tout de suite compris, et il a été élevé à la Ancelotti, Zidane. Il fallait contrôler, on se demandait si ça allait passer à Cristiano Ronaldo. Et je peux te dire qu'il y a eu des moments pas faciles. C'est le premier coach qui a fait sortir Cristiano Ronaldo sur le terrain. Mais par contre, la manière de lui dire, quand deux goats se rencontrent, ils savent se parler. Le coach de Manchester, il n'a pas été bon. C'est ce que tu veux nous dire.
Marion, toi qui es pro Ronaldo dans cette histoire, aussi. Et David, je vais te redonner la parole. Tu ne trouves pas que ça ternit son image un petit peu, cette sortie quand même? Et surtout auprès des futurs employeurs et aussi des autres joueurs qui pourraient voir Cristiano Ronaldo arriver dans un vestiaire?
Bien sûr que non, parce que de toute façon tous les joueurs connaissent l'ego de Cristiano Ronaldo et ils connaissent très bien la manière dont il se comporte. Après, je vais vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Quand Messi, sur sa première année au PSG, il fait une saison, mais t'as l'impression que c'est un fantôme, il est fantomatique, tout le monde se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au PSG, ils ont encore payé juste un nom, ils ont fait n'importe quoi, c'est juste pour vendre des maillots. Et puis cette année, il est reparti de plus belle, il a des stats absolument monstrueuses. Donc faut vraiment pas enterrer aussi rapidement des joueurs comme le disait totalement Olivier, je suis complètement d'accord avec lui, de classe plus que mondiale. Ça fait partie de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite. Donc s'il repart sur un projet, surtout s'il joue bien en Coupe du Monde, il va être avec son sélectionneur Fernando Santos, avec qui il a une relation quasiment fusionnelle, il s'entend extrêmement bien avec lui, qui fait une très bonne Coupe du Monde. Il peut totalement repartir sur 6 mois sur un bail. Il y a Napoli qui est intéressé par lui. Il y avait le Bayern qui était intéressé par lui au mercato précédent pendant l'été, sauf qu'ils ont fait Sadio Mané, mais pourquoi pas le Bayern qui peut le reprendre. Il y a d'autres clubs, il y avait Chelsea, c'était Tuchel qui s'était opposé à son transfert, sauf que Tuchel était viré entre-temps. Il y a le Milan AC qui peut se dire, bah, pourquoi pas Banco éventuellement pour aller prendre Cristiano Ronaldo sur 6 mois. Donc moi, je suis pas du tout d'accord en disant qu'il n'y a aucun club qui va s'aligner. S'il fait une bonne Coupe du Monde et qu'il joue bien, il peut parfaitement repartir sur un bail de 6 mois. Mais encore une fois, bien sûr que ça sent plutôt la fin que le début. Ça, c'est évident, avec des âges pareils à 37 ans et avec quelqu'un qui a tout gagné comme Ronaldo, bien sûr que c'est plus la fin que le début. Mais un joueur d'un niveau pareil, il peut pas non plus laisser cracher dessus par l'entraîneur qui a rien gagné. Enfin, au bout d'un moment donné, ils sont quand même obligés d'ouvrir leur gueule. Bah, je suis désolée, nous, on adorait Zlatan au PSG qui a fait qu'une seule chose pendant je sais pas combien d'années, c'est d'ouvrir sa gueule et c'est pour ça qu'on le respecte. On peut pas demander à Cristiano Ronaldo de se faire cracher dessus de la manière dont il se fait cracher dessus. Dire, oh non, mais y a pas de souci, tu me fais rentrer par 3 minutes, mais oui, y a pas de problème. Moi, j'ai jamais rien prouvé, j'ai 17 ans, je viens d'arriver à United, tu sais quoi, je vais même ramasser des bouteilles à la fin du match. C'est ridicule.
À l'échelle d'une vie, et je lui souhaite de vivre très vieux, notre ami Ronaldo, c'est rien du tout. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il... Enfin, si j'avais un petit conseil à lui donner, prends du recul, mon grand. T'es un vieil athlète dans le sport, mais t'es un jeune adulte dans la vie. Voilà, et la vie, elle est encore très longue derrière. Donc, partir sur un pli comme celui-là, où c'est extrêmement négatif, où ça critique tout le monde, ça envoie les scuds, etc., etc., c'est pas forcément la meilleure manière de démarrer sa nouvelle vie. Voilà, il va encore en croiser des gens qui aimaient peut-être les gens qu'il a critiqués, etc. Il va peut-être avoir des interactions.
Voilà, je peux dire, s'ils s'en foutent royalement, mais à un degré, je crois que t'as même pas idée.
Ben, il va avoir une vie très pauvre et très solitaire. Parce que s'il a le boulard en se disant « je suis le roi du monde, j'ai 1,5 milliard de followers, je suis riche à centaines de millions, etc. etc. » Ben crois-moi, ce mec, il va finir tout seul.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
Le 32-16 pour venir affronter une GG. On accueille tout d'abord Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour, comment ça va les grandes gueules?
Bon pudding.
Ben, très bien Olivier, on est très heureux de t'accueillir. Olivier, tu veux t'attaquer à qui ce matin?
À presque tout le monde.
Oh, il est chaud.
Non, sauf à Sarah et Pascal qui s'est un peu repris sur la fin par rapport à l'équipe de France de rugby. Alors, moi quand je vous écoute, je suis pas en colère, mais un petit peu contrarié. Parce que, alors, on a l'impression que quand on perd, on a une grande équipe de France qui perd les matchs, qui ont été magnifiques, fabuleux. Et quand on gagne, on a l'impression que c'est contre les marchands de rondelles. On nous dit l'Australie, oh ben ils étaient fatigués, ben ils avaient qu'à se coucher plus tôt, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Moi j'ai trouvé cette équipe de France hier très bonne, très besogneuse, très ferrailleuse. C'était un petit peu le rugby d'hiver qu'on a vu, ce rugby de rustre, de gaillard, et je me suis régalé. Et je suis fatigué qu'on tape sur cette équipe de France, qu'on minimise ses victoires. Alors que ben c'était quand même l'Australie, enfin, je veux dire, c'était pas des forains, quoi.
Alors, notre débat, Olivier, c'était est-ce une grande victoire ou une petite victoire? Ils étaient trois à dire grande victoire, et Simon Dutin, je pense que tu t'attaques à lui particulièrement, disait petite victoire. Tu réponds quoi, Simon, à Olivier, qui est très bon, hein?
Oui, alors j'aime beaucoup les formules, hein, Olivier, on en est friand, mais effectivement, on sait que ça ne se joue pas des heures de sommeil. Tout ça, est-ce que j'ai été content de voir les Bleus l'emporter en fin de match? La réponse est oui, encore une fois, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Par rapport aux attentes, par rapport au statut de cette équipe de France, par rapport à, je sais pas si Olivier, tu arrives de parier sur les rencontres sportives. Hier, on était assez ahuri lorsqu'on a vu la cote de la victoire de l'équipe de France face à l'Australie, qui, je le rappelle, moi j'ai 40 ans, lorsque j'étais enfant, on n'était jamais favori contre les Australiens, que ce soit chez eux ou chez nous.
On gagnait pas non plus.
On a manqué de maîtrise, on n'a pas eu l'exécution qu'on peut avoir. Encore une fois, on le rappelle, avec ce qu'on nous labellise comme notre équipe premium, hein, qu'on nous vend comme bien au-dessus de ce qu'on peut constituer avec d'autres joueurs. Parce que, encore une fois, ça a justifié ce label premium qu'on mette des joueurs qui n'étaient pas en forme, qui manquaient de rythme.
Très bien.
Donc, ce n'est pas une grande victoire. Que la victoire fasse plaisir, oui, mais ce n'est pas un grand match du 15 de France.
Tu as pu répondre à Olivier. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir composé le 32-16. Vous n'êtes pas d'accord, et ça, on l'a bien compris. Sophie nous appelle aussi au 32-16. Bonjour, Sophie.
Oui, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Bonjour, Sophie.
Il faut avoir beaucoup de patience, mais j'en ai.
Ah, pour participer à cette émission, c'est ça? Vous avez attendu un peu longtemps au standard, Sophie?
Absolument, mais c'est pas grave, la standardiste était super cordiale, tout allait bien. Bon, moi je veux parler de OMOL, mais avant je voudrais dire que Pascal, je n'enlève pas une virgule à ce qu'il a dit en dernier, et que Sarah Pitkowski, que je me permets de tutoyer parce que je suis une fan, que je, vu mon grand âge, je peux me permettre de la tutoyer. Chapeau pour tes interventions. Il faudrait que tu sois plus souvent dans les grandes gueules.
Ok, très bien. Ok, c'est alors, Sophie. C'est Sophie Pitkowski qui nous appelle. Très bien. Sophie, vous voulez vous attaquer
voilà,
à qui?
Moi, je pense que je vous entends. Je vous ai entendu depuis ce matin. J'ai entendu beaucoup, plus parler de l'OM, tu dors. Mais je pense quand même que vous oubliez qu'ils vont jouer contre l'OL. Alors je sais que l'OL n'est pas au goût du jour, que l'OL, etc.
Mais c'est Jean-Christophe Drouet, il n'aime pas l'OL, donc il ne fait jamais de débat sur l'OL.
Pardon ?
Non, ne l'écoutez pas, c'était une bêtise. Allez-y Sophie.
Oui, il y en a pas mal. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que il faut être équitable. Ce soir, c'est OM, tu dors si vous voulez, mais c'est aussi l'OL et Laurent Blanc, et qu'il faut quand même donner une part équitable à chaque équipe. La seule personne qui en a parlé un peu de l'OL, c'est encore Pascal. Alors j'estime que vos intervenants, là, c'est des jeunes. Pour moi, c'est des mêmes très jeunes, mais ils oublient un peu que quand ils étaient sur le terrain, chacun respectivement, bah, c'était peut-être pas toujours joli.
Voilà. Merci Sophie. Alors moi je vais vous répondre parce que c'est moi qui fais le conducteur avec
Pierre-Amiche de
l'émission. Donc bon, je sais que Sophie vous m'en voulez. Juste une précision. Non, quand vous avez dit c'est Tudor l'OM, c'est pas l'OM, c'est Meunier Tudor. Ça c'était pour la précision
alors,
humoristique.
C'est pour mes classiques que je connais.
Sophie, qu'avez-vous pensé de la prestation de Stephen Brun pendant ces 3 heures? Est-ce qu'il faut qu'il revienne plus souvent?
Non.
D'accord, non, c'est dehors. Très bien, merci.
Et si vous me parlez de Simon, c'est non.
D'accord.
Non, on n'avait pas encore
de Stephen. De Stephen, en fait, c'est non.
Et alors, Sarah et Pascal,
c'est oui.
Tous les samedis.
Et Stephen, c'est non.
Bah, Stephen, c'est non, on t'a dit. C'est bon, Sophie.
Même pas le dimanche.
Sophie, est-ce que moi je peux rester? C'est l'animateur, c'est Jean-Christophe qui vous parle.
Avec plaisir.
Merci, d'accord. Sophie. Vous écoutez RMC, c'est le best-of des grandes gueules du sport. Ne bougez pas, on revient dans une poignée de secondes. Un homme en colère, Pierre Amiche, sur l'affaire de la potion magique de Novak Djokovic. A tout de suite.
RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport. RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
De retour sur RMC pour le best-of des grandes gueules du sport. Joyeux Noël, bon petit déjeuner en notre compagnie. C'est l'heure de l'homme en colère, comme tous les dimanches à 10h30. Nous étions le 13 novembre et ce jour-là, Pierre Amiche revient sur l'affaire de la potion magique de Djoko. Ça tombe bien, en studio, un très bel affrontement entre Marion Bartoli, le tennis, et Marc Madiot, le cyclisme.
RMC, mais pourquoi est-il aussi méchant ?
L'homme en colère.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors pourquoi en colère aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis un homme en colère après Eric Salio, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski et tous les miaou du tennis qui nous expliquent depuis 10 jours que l'histoire de Novak Djokovic et la potion magique, mais c'est normal. Hein. Alors déjà, en guise de préambule, parce que je ne veux pas me faire attaquer en justice comme Roselyne Bachot, j'ai pas les moyens. Je ne dis pas que Novak Djokovic se dope. J'ai aucune preuve, j'ai aucun droit de le salir. Je revendique en revanche totalement mon droit de soulever quelques incongruités qui auraient valu une suspension à n'importe quel autre sportif. Petit rappel des faits. À Bercy, magie du smartphone, il y a un kiki qui filme le clan Djokovic pendant la demi-finale. Et là, son coach verse, en tentant manifestement de se cacher, de la poudre dans de l'eau. La bouteille vole de main en main jusqu'à la chaise de Djoko qui boit le contenu inconnu et secret d'une bouteille venue des tribunes. Et je m'arrête 2 secondes sur le truc. Imaginez 5 secondes la même chose avec Marc Madiot. Non mais je rigole pas, imaginez Marc filmé en train de foutre de la poudre dans une gourde en se cachant, puis filer la bouteille à Godu ou à Pino et que lui il gagne le tour. Hein. Vous pensez que Marc il serait ailleurs que dans les locaux de la gendarmerie ce matin? Alors revenons à nos miaous. J'ai donc compilé pour vous le top 3 des excuses qu'on va trouver au Joker. Je précise que tout ça c'est des vraies excuses que j'ai entendues, hein, pour de vrai, il n'y a pas de trucage. Top 3. Il ne se justifie pas parce qu'il en parlera quand il sera prêt. Tout ce que vous voyez n'est pas sujet à controverse. Il peut que ça soit une affaire privée. Est-ce que c'est permis? Ça, c'est sa femme qui le dit. Hein. La fameuse technique du « il parlera quand il sera prêt ». Normal. Hein. Top 2. Novak Djokovic, il peut pas se faire vacciner. Comment on peut imaginer que ce mec se dope? Son corps est un temple, man. Bah ouais, celui de Simon aussi. Hein. Bon, lui, c'est plus le genre de temple indien blindé de rats où les singes y chient par terre. Mais Djoko, il est comme Simon. Ils sont fondamentalement sains. Hein, on tient le même discours d'ailleurs avec Nadal, avec Federer et tous les copains. Hein. Ils sont plus grands que l'humanité. On peut pas soupçonner le gratin mondial parce que ce sont des êtres de lumière et de bonté. Hein, et c'est connu d'ailleurs. Les mecs nuls à chier, ils se dopent. Et puis les cadors, ils se dopent pas. C'est scientifique, c'est prouvé tout ça. Enfin, mon excuse préférée, c'est
Non, mais en fait, ils se cachent parce qu'ils veulent pas donner la marque de la poudre. Parce que tous les mecs le font et ils veulent pas se faire piquer leur secret. Bah oui, le célèbre secret industriel autour de la poudre de perlimpinpin. Et c'est pour ça. D'accord, l'entraîneur il se cache, mais c'est comme pour la recette Tipiak. C'est parce que c'est très très bon. Hein. Et puis il faudrait pas se faire piquer la recette de l'eau. Hein. On sait jamais ça. Ouh. Et tout ça, ça tiendrait. Sauf que ce qui m'agace, c'est qu'à Wimbledon, le 8 juillet, Djokovic parle d'une potion magique. Et le 10 juillet, de nouveau, il aborde l'idée d'un produit aux vertus magiques, mais secret. Et réaction des journalistes présents en conférence au moment où ils parlent de la potion magique. Eh ben, il se marre, il rigole. Hein. Le mec fait un des sports les plus durs du monde. Il est connu pour être avec Nadal le joueur au physique le plus incroyable du circuit. Il met des pétés à la terre entière depuis 15 piges. Et quand il prend un truc magique qui fait gagner, Eric Salio et ses potes, ils rigolent, ils se marrent. Et c'est ça le drame des sports où on accepte que les interviewés soient tellement plus forts que les intervieweurs. On a l'impression que quand ils répondent à des questions, ils te font une fleur. On se met à attendre qu'ils nous éclaboussent de leur drôlerie. Ah oui, Roger. Ah oui, Rafa. Ah oui, Nolé. C'est le seul sport où les journalistes, ils appellent les gars par leur petit nom. Hein. Puis on oublie que le tennis, c'est un sport où le spectre du dopage n'est pas moins sombre qu'ailleurs. Villander, Agassi, Korda, Chela, Puerta, McEnroe, Hingis, Sharapova, Cilic et tout récemment Simona Halep ont tous et toutes été contrôlés positifs ou ont fait des aveux de dopage après leur carrière. Mieux, en juin, le Daily Mail affirme que l'ITF prévenait les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs de la date des contrôles inopinés. Même son de cloche chez l'ancien patron de la FLD, Jean-Pierre Verdi, il n'a pas pu procéder à des contrôles inopinés dans les grands tournois français, sauf à une exception, à Bercy, et une seule fois. Et ces tests auraient provoqué la colère du numéro 1 mondial de l'époque, mettant un point final aux contrôles inopinés dans le tennis français. Enfin, en France, pardon. Tout ça pour dire que le tennis, le foot, finalement, aucun sport n'a le droit d'être au-dessus de tout soupçon. Balayer les doutes dans un sourire, ça ne doit pas pouvoir marcher. Je comprends même pas comment dans un sport professionnel, les gars ils peuvent boire quelque chose qui vient des tribunes. Et même si c'est pas du dopage, même si Djokovic est plus blanc que blanc, le doute ne doit pas exister. Djokovic est probablement innocent, mais il se rappellera peut-être quand même de cette petite phrase de William Shakespeare. La réputation est un préjugé vain et fallacieux, souvent gagné sans mérite et perdu sans justice. La sienne n'est plus à faire, mais sa réputation pourrait, à force de secrets, de cachotteries, de défenses minables, se voir totalement défaite.
Merci beaucoup Pierre Amiche pour cet homme en colère. Est-ce que vous aussi vous êtes en colère? Les GG après cette histoire de la potion magique. En colère, pas en colère. Olivier Giraud.
Je suis pas en colère.
Marion Bartoli.
En colère contre qui? Contre Pierre ou contre Djokovic? Ça dépend. Si c'est en colère contre Pierre, très en colère très contre bien. Pierre, même si je l'adore.
Et dans cette histoire.
Mais pas en colère contre Djokovic, non.
Ok. Mon cher Marc Madiot.
Il y a longtemps que je ne suis plus en colère.
Ok. Simon Dutin.
On pourrait croire qu'il est en colère, mais rien à voir.
Simon.
Non, je ne suis pas en colère, Jean-Christophe.
Ok. Parole à la défense, Marion Bartoli, tu commences.
Non, mais en fait, je comprends même pas cette histoire. C'est-à-dire que si tu reprends tous les matchs de Djokovic depuis les 15 dernières années, qui est son préparateur physique ou son kiné, qui lui fasse une bouteille avec de la poudre isotonique ou n'importe quelle poudre à l'intérieur, je peux t'en sortir 150. C'est juste que là, maintenant, en France, ça a été filmé, ça a été mis sur les réseaux sociaux, qu'il y a un tournoi en France et que donc on est en train de se dire, oh là là, c'est la première fois qu'il le fait. Sauf que je peux citer 15 joueurs qui font pareil. Moi-même, j'étais en équipe de France. Alors, on a tous nos petits rituels et nos petits, entre guillemets, porte-bonheur. Et donc, on vient sur le terrain avec un certain nombre de bouteilles préparées à l'avance avec de la boisson énergétique à l'intérieur. Alors, à tort ou à raison, peut-être qu'on est un peu trop superstitieux. Mais je me rappelle très bien, j'ai joué un match de Fed Cup, j'avais Amélie Mauresmo à côté de moi sur le banc. T'es un peu plus tendu que d'habitude parce que c'est un match de l'équipe de France, donc tu bois un peu plus de boissons sucrées que d'habitude. J'en ai plus, je me retourne vers le staff de l'équipe de France, je demande au kiné de me préparer une autre bouteille et là, effectivement, il prend une bouteille d'eau, il met de la poudre à l'intérieur, il me la donne. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, je vois pas en fait. J'ai l'impression qu'en écoutant Pierre, il va lui faire la potion magique d'Astérix, il va la boire, il va d'un coup avoir des forces décuplées, il va battre tous les Romains. Enfin, ça en devient ridicule quoi. Enfin,
cette histoire est ridicule.
Non, mais j'arrive même
dire.
Pas à comprendre. J'arrive même pas à comprendre comment on en arrive là dans un débat. Je comprends pas. Donc, quelle boisson? Vas-y, explique-moi une boisson. Donc, il la boit. En plus, je crois que c'est à 6-5 au troisième set contre Rune. D'accord, donc va avoir un effet en l'espace d'une minute pour en plus un match qu'il a perdu.
Je me demande si c'était pas contre Tsitsipas, mais bon, je crois que c'était en demi-finale.
Contre Rune, ouais, mais il le fait aussi contre Rune en finale. Et donc va avoir un effet instantané et d'un coup il va plus être fatigué, il va gagner tous les. Enfin, j'arrive même pas à comprendre comment on peut arriver à avoir ce débat-là. Encore une fois, si tu reprends même des matchs de Zverev, son kiné fait exactement la même chose. Je peux te sortir 10-15 joueurs qui font pareil. Je
Marion,
comprends.
Moi je
c'est comme si tu me disais ouais dans donc on va avoir une boisson donc dopante, mais on va le faire en tribune, mais on va essayer de se planquer alors que tout le monde, c'est que des matchs devant 15 000 personnes, tout le monde aujourd'hui a un téléphone portable, donc tout le monde peut filmer, et on va lui donner une bouteille ou un produit dopant à l'intérieur. Mais je sais pas si tu te rends compte de l'ineptie de cette théorie, quoi. J'arrive pas à comprendre qu'on en soit arrivé là dans le raisonnement, en fait.
Marc Madiot.
Oui, j'ai 63 ans.
Félicitations, bon anniversaire.
Et ça date de quelques mois. J'ai donc une certaine expérience du sport de haut niveau. Moi, je vais juste vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'étais en contact avec Floyd Landis. C'était avant son histoire du Tour de France. Et quand on recrute un coureur, on regarde ses données sportives. Et puis, on demande à ce que notre médecin ait accès à son dossier médical. Et j'étais avec mon frère, en entretien avec l'agent de Floyd Landis. Landis n'était pas là. Et on discute du contrat qui était réalisable, de l'aspect sportif qui pouvait nous intéresser. Et à un moment, on aborde donc le sujet du dossier médical. Et là, que s'est-il passé ? L'agent nous dit, mais comment pouvez-vous nous demander le dossier médical ? Floyd ne prend aucun produit, sa religion le lui interdit. Et là, mon frère a eu une petite réflexion, il dit, oui, mais on préfère voir quand même le dossier médical. On n'a jamais vu le dossier médical, on n'a jamais recruté Landis, et on connaît la suite de l'histoire avec Landis. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que faut pas se fier aux apparences. Alors, on pourrait dire, oui, il faut pas se fier aux apparences, ce n'est qu'une bouteille, ce n'est que ceci, ce n'est que cela. Moi, je suis désolé, Marion, mais depuis un certain nombre d'années, dans notre sport, nous, on a eu des difficultés. On a peut-être, dans un premier temps, essayé de les contourner ou de les oublier. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'à un moment ou à un autre, le parpaing, on peut se le prendre dans la gueule. Je pense et je crois qu'à un moment ou à un autre, les disciplines sportives qui ne s'impliquent pas à 100% ou à 1000% dans l'antidopage, à un moment ou à un autre, seront rattrapés par le sujet et par le dossier. Il est impensable pour moi, mais encore une fois, j'ai 63 ans, ça doit être mon âge, il est impensable pour moi que des sports où il y a de telles sommes d'argent qui circulent, il n'y ait pas des gens qui aient envie de contourner les situations. Voilà, c'est tout. Moi, mon discours s'arrêtera là.
Non, mais faut arrêter avec ce dogme. Et là, je suis pas du tout d'accord avec Pierre. Le tennis est un sport archi contrôlé. Tu dois donner une heure par jour.
Par mois, par an, sur combien d'épreuves?
Moi, quand je jouais, je tournais à 30 contrôles par an, dont 15 inopinés.
Bon, c'est pas beaucoup, 15, hein.
15 inopinés sur une saison, tu fais 20 tournois, t'as déjà 30 contrôles, t'en as quasiment systématiquement en tournoi, plus 15 où on vient chez toi à une heure que t'as donné, ou n'importe où dans le monde à une heure que t'as donné, ça fait quand même beaucoup. Donc je vois pas où là où j'aurais pu me doper. Et d'ailleurs ceux qui ont été dopés ou ceux alors que Simone Halep dit qu'elle a pas été dopée, qu'elle a donné la vérité,
juste une petite question, sans porter de jugement. Quand tu as vu Roland Garros avec Nadal, y a rien qui t'a choqué?
Il a eu une ordonnance thérapeutique.
Il a eu un agrément.
Mais oui, mais bien sûr. Mais après, tu demandes.
Nous on a même pas ça nous.
C'est votre sport. Mais dans le tennis, il y a des ordonnances thérapeutiques. Après, tu peux dire, effectivement, on doit enlever toutes les ordonnances thérapeutiques, mais il a rien enfreint du tout comme loi, Rafael Nadal. Il a rien enfreint comme loi. Il a été voir un médecin indépendant qui lui a octroyé une ordonnance thérapeutique pour qu'il puisse soigner son pied pendant le tournoi. Il a fait tout dans les règles, il a suivi le protocole. Après, tu peux dire que le protocole est mauvais, mais ça, c'est un autre débat.
De toute façon, là-dessus, sur ce dossier, et on met de côté, évidemment, Novak Djokovic dans vos discussions, on vous mettra pas d'accord, parce que le cyclisme a l'impression d'être beaucoup plus contrôlé que les autres, ce qui est certainement...
Oui.
la vérité. Et le tennis ne va pas dire, bah oui, mais on est le tennis, on n'est pas le cyclisme, donc on va pas être. Donc là-dessus, je pense qu'on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Sur cette histoire de Novak Djokovic, est-ce que vous comprenez que ça prenne de l'ampleur? Votre regard, Olivier et Simon.
Moi, je trouve ça gênant, ouais. Ah ouais, je trouve ça gênant et en fait pas parce que
ça prenne de l'ampleur ou la vidéo tu la trouves un peu gênante quoi.
Ouais, je trouve la vidéo gênante, ouais. Je trouve la vidéo gênante parce que justement, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et depuis très très longtemps. Et justement parce que il y a eu dans le temps à chaque fois des événements qui font qu'on se pose des questions et que le doute, c'est ce qui tue tout, la rumeur, c'est ce qui tue tout et je trouve qu'ils ne se protègent eux-mêmes déjà pas contre ça. Et que surtout, l'image que ça renvoie, elle est pas bonne. Et que quand t'es le numéro un mondial, tu dois faire attention à ces choses-là. Tu dois pas prendre une bouteille qui arrive des tribunes. Je suis désolé.
Le numéro un mondial, en ce moment, c'est Alcaraz.
Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que, après tout ce qui s'est passé, les moments où il est complètement épuisé, il part dans le vestiaire au bout d'un quart d'heure. Et je ne juge pas ça. Et qu'il revient. Et ça fait que les gens se posent des questions. Donc, à un moment, juste faire un petit peu attention, les gens regardent et on n'est pas tous des joueurs de tennis et que c'est vrai que là on voit un truc où selon les sports on le jugerait pas de la même manière. Donc le tennis n'est pas au-dessus de la suspicion et tout Novak Djokovic, et même si je me dis pas qu'il est dopé exactement comme Pierre, mais à un moment il faut pas agiter le chiffon rouge et faire des choses comme ça, je suis désolé.
Ok, Simon, le mot de la fin.
Je suis un peu sur la même ligne qu'Olivier. Moi effectivement dans le fond j'arrive pas à acheter le fait qu'il puisse y avoir le moindre truc interdit dans la potion entre guillemets qui a été préparée. Je doute pas que les tennismans soient également contrôlés. Ce qui m'agace un petit peu, c'est plutôt sur la forme, c'est la force du symbole, Olivier le rappelait, voilà, tu sais que t'es épié, tu sais qu'il y a une exemplarité à donner, et tu sais que même si ça te paraît futile et ridicule ou disproportionné, tu sais qu'il y a forcément des gens, soit extérieurs au sport de haut niveau, soit juste des emmerdeurs, des chercheurs de polémique, qui vont forcément soulever la question, poser la question, t'es sur un événement ultra médiatisé, et ce que j'aime pas, effectivement, c'est la petite musique, alors je sais que ça va agacer Marion, mais cette espèce d'entre-soi, écoutez, nous on est le tennis, on est quand même pas un sport de voyous, vous allez arrêter de nous prendre la tête. La compagne de Djokovic qui dit il n'est pas encore prêt à en parler, respectez-le, prenez soin de vous, allez faire un tour dehors et tout, arrêtez de vous. Bon, il y a une sorte de mépris en fait pour un doute qui, qu'on l'accepte ou pas, peut quand même être légitimé par la grande histoire du dopage dans le sport de haut niveau.
Restez bien avec nous, le best-of des grandes gueules du sport, ça continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h en ce jour de Noël. L'appel au boycott d'Eric Cantona pour la Coupe du Monde au Qatar, c'est votre prochain débat. A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport. RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
C'est la suite du best-of des grandes gueules du sport. Merci de votre fidélité. Joyeux Noël. Un thème qui est revenu inlassablement avant le début de la Coupe du Monde, le boycott. Eric Cantona nous avait offert une punchline. C'était le 17 septembre dernier avec Christophe Cessieux, Denis Charvet, Marion Bartoli et Cyril Marais. Regardez la Coupe du Monde au Qatar ou regardez Colombo, Eric Cantona a choisi. Dans un message publié mercredi sur Facebook, la légende de Manchester a annoncé qu'il allait boycotter le Mondial. C'est la punchline des GG racontée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
Moi, l'amoureux de foot, j'ai pris ma décision. Je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde n'a aucun sens. Pire, c'est une aberration. Déjà parce que le Qatar n'est pas un pays de foot. Une aberration écologique. Mais surtout une horreur humaine. Que la France gagne, perde, j'en ai rien à carrer. Dans la vie, il y a des choses plus importantes que le foot. À la place, je me referai tous les épisodes de Colombo.
Et ben voilà, c'est dit de la part d'Eric Cantona. Ça a beaucoup fait parler cette semaine. C'est à vous de trancher maintenant les GG. D'accord ou pas d'accord avec Eric Cantona? Christophe Cessieux.
D'accord et pas d'accord, mais pas d'accord.
Plutôt pas d'accord, très bien. Marion Bartoli.
Pas d'accord.
Cyril Marais.
Pas d'accord.
Denis Charvet.
Pas d'accord, mais...
Oui. Pas d'accord, mais ok, j'ai beaucoup de pas d'accord et beaucoup de nuances, j'ai l'impression, dans ce débat.
Non, mais Christophe Cessieux. Mais c'est un excellent débat qu'a lancé Eric Cantona. mais il ne veut pas le lancer à trois semaines ou à un mois de la compétition.
Deux mois.
Il y a six ans, il y a quelques années, au moment de la décision, au moment où les dirigeants du foot mondial ont commis sans doute la plus grosse erreur de leur existence. Tout ça pour des marchés, pour de l'argent, pour le pognon, évidemment. C'est à ce moment-là qu'il fallait s'insurger contre cette décision. Mais là, tout est fait. On est à deux mois de la compétition. Toutes les équipes sont qualifiées. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Si Cantona avait voulu s'ériger en Zorro de l'écologie et des droits de l'homme, il aurait dû le faire à l'époque, mais pas maintenant. Et je suis d'accord avec lui sur le fond, mais d'accord sur tout. C'est une ineptie totale, cette Coupe du Monde. Organiser, faire monter 8 stades, enfin, ils en ont construit 6 plus 2 qu'ils ont restaurés à quelques kilomètres d'intervalle, qui vont tous être climatisés avec l'utilisation de milliers de personnes, de la chair à canon pour fabriquer ces stades. Oui, c'est un scandale. Oui, c'est un véritable scandale. Tout ça au nom du blé, mais le problème, c'est que c'est trop tard. Il fallait le faire. Alors, il y a certains pays qui s'étaient élevés et qui avaient dit qu'ils allaient boycotter. Je sais pas ce qu'il en est.
Mais ils ne l'ont pas fait finalement. Il y avait la Norvège qui voulait boycotter la Coupe du Monde.
Je pense que c'est pire. Mais là, aujourd'hui, c'est comme dans tous les gros événements sportifs. Il y a les euros qui se réveillent au dernier moment. Rappelez-vous les jeux organisés en
Pékin,
Chine
en 2008.
À Pékin, ouais. En 2008, ça avait été la même chose. Les jeux organisés au Brésil, ça avait été un scandale.
Mais en Russie, par contre, on n'a rien dit. Hein. J'ai entendu beaucoup de gens parler en Russie.
J'allais y venir. Hein, c'est marrant.
Rappelle-toi sur les jeux de Sochi quand même.
Alors attendez, vous êtes d'accord ou pas d'accord?
Il y a eu une campagne contre ces jeux, les jeux de Poutine, les jeux les plus chers de l'histoire.
Il n'y a pas beaucoup de. J'ai pas entendu Eric Cantona s'offusquer par rapport à la Russie.
Et sur la Coupe du Monde en Russie non plus.
Non mais Eric, sur le fond, bien sûr qu'on est, je pense, tout d'accord autour de la table par rapport à tout ce qui se passe là-bas. On est d'accord par rapport aux droits de l'homme, même si Amnesty International a fait des efforts depuis 10 ans quand même. C'est pour ça que je dis que c'est pire de boycotter en fait. Parce qu'il faut aller regarder, il faut aller se batailler. C'est ce qu'a fait Amnesty International. Et depuis 2016, alors est-ce que ça va aller plus loin? On sait que il y a eu des changements au niveau de la justice dans le pays. Donc, moi je pense
que quand le Qatar reprend le PSG, ça dérange personne. Par contre. Donc quand on met l'argent du Qatar sur le PSG, là ça dérange personne. Et par contre quand le Qatar veut organiser la Coupe du Monde, là on s'érige contre effectivement les droits humains et on s'aperçoit que c'est pas forcément la plus grande démocratie. Non mais ça me fait doucement rigoler. Il faut être juste cohérent.
Oui, mais est-ce
si effectivement
écouter,
on veut pas
c'est
du Qatar, on veut pas du Qatar, alors on n'accepte pas non plus l'argent du Qatar pour le PSG non plus.
Non mais la vraie question aujourd'hui c'est est-ce que c'est une solution de boycotter, c'est-à-dire
les jeux sont faits. C'était il y a quand la décision a été prise qu'il fallait éventuellement.
Bien sûr.
Commencer à avoir une grosse levée de bouclier de la part de tout le monde pour arriver à mettre une certaine pression. Après, le Qatar reste un pays souverain et ils font à peu près ce qu'ils veulent chez eux. Mais je pense vraiment pas qu'à 3 mois de la compétition, c'est le moment de dire, enfin, se réveiller comme ça et d'avoir une espèce d'hypocrisie en se disant, bah oui, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas la plus grande démocratie, il y a pas beaucoup de droits humains et que c'est à peu près de partout une ineptie. Enfin, j'ai du mal avec ce discours-là. Quand la Russie a organisé la Coupe du Monde en 2018, j'ai pas entendu grand-chose. On voit très bien ce que fait Poutine aujourd'hui. Quand ça a été au Brésil aussi, ils ont déplacé des milliers de personnes. Il y a eu des destructions de la forêt amazonienne. J'ai pas entendu grand-chose non plus parce qu'effectivement, on dit que c'est un pays entre guillemets qui a le droit d'organiser. Donc j'ai du mal à comprendre ce discours.
Moi, ce que je comprends pas, c'est le timing, quoi. C'est-à-dire que les acteurs, Vincent Lindon, Eric Cantona
et Philippe Lam aussi.
Philippe Lam, mais ça sert à rien maintenant.
Ouais.
J'ai envie de leur dire, mais pourquoi vous n'êtes pas monté au créneau avant? Pourquoi vous n'êtes pas monté?
Quand même, l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, c'est décembre 2010. C'était il y a 12 ans. Et je trouve que cette petite musique sur le boycott ça fait quelques années que cette émission. On a quand même déjà fait ce débat sur le boycott.
Ça n'a jamais vraiment pris, quoi. Il n'y a jamais eu de mouvement de foule de mouvement de contestation en disant
ils ont d'ailleurs bien pratiqué le boycott vu qu'ils ne sont pas réussi à se qualifier. Oui, mais c'est déjà une belle façon de pratiquer un boycott.
Non mais Eric Cantona a un nom dans le football, je suis désolé, c'est un nom dans le football. Moi je pense qu'Eric, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne sont pas montés au créneau il y a 10 ans. Tout simplement, au tout début, puis tu lances une campagne anti-boycott, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, ça sert à rien.
Oui, ce que je trouve bien, et après je te donne la parole Cyril, ce que je trouve bien quand même dans ces cas-là, et on en parlait d'ailleurs pour 2008 ou encore Sochi 2014 ou la Coupe du Monde 2018, c'est que tout de même, ça a l'avantage
de mettre en lumière les zones d'ombre de ces pays.
C'est-à-dire que, ah, mais bien sûr.
Au moins, on en parle. Alors, est-ce que ça change fondamentalement les choses?
Est-ce qu'après, ça continuera? Ça
m'arrivera. Mais au moins, je vais dire un truc. Au contraire, je pense qu'en organisant un grand événement comme ça, ouvert, un public extrêmement large, c'est comme ça que ce genre de pays, justement, va continuer d'avancer et va arriver sur quelque chose de beaucoup plus progressiste et beaucoup plus ouvert. Ça, j'en suis intimement convaincue. C'est pas en les refermant et au contraire, en les, entre guillemets, en leur octroyant pas de compétition internationale, pas de voyageurs, de visiteurs qui viennent, qu'on va arriver à faire progresser les choses.
Ils en ont eu un paquet quand même, des compétitions internationales. J'ai pas l'impression que le pays ait beaucoup changé.
Évolue. Moi, j'y vais chaque année pour le tennis. Le tournoi de tennis a lieu chaque année là-bas. Il y a une énorme évolution de Doha. Énorme. Ouais. En 10 ans, elle est colossale d'évolution. Colossal,
dans le
bon sens.
Ouais, okay. Alors, rappelez-vous ce qui s'est passé en Chine en 2008. On a appelé au boycott des Jeux de Pékin. On a dénoncé les conditions des Tibétains à l'époque. Et puis, une fois la compétition passée, plus personne ne s'est jamais intéressé à leur sort.
C'est vrai, mais la Chine, c'est particulier. Ils ne pratiquent pas le soft power. C'est-à-dire que eux, l'image qu'ils renvoient, ils s'en moquent un peu. Les Qataris, c'est peut-être différent au niveau de l'image qu'ils renvoient. Cyril Marais.
Non, mais moi, je trouve, par rapport à ce que disait Denis, c'est sûr que Cantona, Eric, c'est un très grand nom du football. Mais ce qui aurait été intéressant aussi, c'est d'avoir un grand footballeur en activité qui s'exprime là-dessus. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est tout simplement impossible pour eux.
Tu as raison.
Comment veux-tu qu'un Kylian Mbappé dise aujourd'hui je vais boycotter la Coupe du Monde par rapport à ce qui s'est passé?
Toi, c'est ce que tu aimerais, mais par exemple, tu fais les JO 2008. Tu fais les JO 2008.
Non, mais moi, j'ai fait les JO 2016 à Rio. Tu me dis, attends, ils vont déforester. Tu dis, moi, c'est ma seule opportunité de faire les Jeux Olympiques. C'est ma seule opportunité d'aller gagner une médaille olympique. Je fais quoi? Je suis désolé, non, moi l'Amazon, je veux dire, c'est hyper compliqué. L'Amazonie,
ouais.
Bien sûr.
Oui, parce que si tu fais l'Amazon, ça n'a rien à voir. Et c'est généralement plus tard le soir. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, évidemment.
Réflexion intéressante de Arthur là, sur le hashtag Amcela qui nous dit c'est vrai que la Russie est beaucoup plus ouverte aujourd'hui qu'après les Jeux Olympiques. Mais... Et que l'Allemagne en 1936, c'est beaucoup plus ouverte au monde aussi après les Jeux Olympiques de Berlin.
Ouais, mais ça c'est caricature.
Ah, bah non, c'est vrai.
Mais bon, après le gouvernement, c'est là où je suis. On peut s'offusquer un petit peu, c'est-à-dire que le gouvernement, qui est monté au créneau en 2010, qui est monté quand il y a eu les propositions des droits de la Coupe du Monde.
Dino, l'attribution.
Qui du gouvernement, qui c'est qui a demandé à boycotter.
C'est surtout Sarko qui a poussé pour que.
Non mais
c'est
ce que
Nicolas
je dis,
Sarkozy.
Non mais qu'est-ce que je dis? Comment? Non mais il s'est rien passé. Donc à l'époque, on savait très bien les problèmes, ils existaient déjà.
Oui, mais la France, dans l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, a quand même une part importante.
Pour des raisons peut-être qu'on sait.
Mais pour des raisons financières, économiques, exactement.
La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré boycotter la Coupe du Monde de football en raison de la climatisation des stades du Qatar serait sans effet sur les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.
Parce que justement, à géométrie variable. Elle dit que les problèmes des jets, des chefs d'entreprise, c'est pas un problème. La semaine d'après, sur l'histoire Galtier Mbappé, elle les charge. Et aujourd'hui, non mais attendez.
Et en plus, elle dit que le contexte climatique n'était pas le même en 2010.
Les grandes gueules du sport, le best-of, ça continue. On est ensemble, on est bien, on est dimanche, chez Noël, à partir de 11h. Dans quelques instants, je vous propose un bras de fer sur Hugo Lloris, qui est devenu le recordman de sélection en bleu lors de la Coupe du Monde au Qatar. Un débat très 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 animé. À tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport.